mardi 31 janvier 2012. Bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30 et je suis accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Cette semaine, un spécial entrevue, on n'a pas de chronique. Hein. Vous savez, chaque personne est associée à un mardi du mois, on est le cinquième mardi, alors on a une entrevue en bonus. On rencontre Viviane Paradis pour la directrice artistique du mois multi. Pour nous parler de la programmation du mois multi qui commence demain. Ensuite, on rencontre Jessie Bossé qui nous présente l'exposition Choses avenues, non avenues à la galerie le 36. Un peu plus tard dans l'émission, on rencontre aussi Anouk Deloge et Gino Quentin qui vont nous parler de leurs expositions qui sont présentées à Regard. Donc, l'exposition d'Anouk est le Rorschach de la résidence et celle de Gino, c'est Mon corps est une planète. Également, Raymond Poirier nous fera sa revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Comment vas-tu?
Mais très bien, toi?
Ça va très bien. Peut-être une petite nouvelle là, que tu nous lances comme ça rapidement?
Oui, ben, en fait, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais il y a une nouvelle étude qui a été publiée concernant le secteur des arts visuels au Canada par l'Alliance pour les arts visuels. Alors, ça, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais sinon, petite mention au passage, on en avait parlé un peu il y a quelques semaines de ce programme là d'artistes en entreprise oui. Lancé par la Chambre Blanche. Et bien, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la première de cette série
c'était
de conférences.
Ce midi, hein?
C'était ce midi du côté d'X-Media. On espère que ça a bien fonctionné là. C'était l'artiste Takao Minami qui est également en résidence à la Chambre Blanche qui allait présenter son travail là-bas. Et donc, toujours, bien entendu, les gens d'affaires de la grande ville de Québec et de la région qui sont invités à aller chercher justement de ces conférences-là pour animer leur midi.
Excellent. Donc, on en reviendra aux autres nouvelles après la chronique de Simon Roy. Bonjour, Simon.
Bonjour, Julie.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Ça va très bien. Je vois que tu nous amènes, quoi, en Espagne aujourd'hui, en Amérique du Sud?
En Amérique du Sud, non, pas vraiment. Plutôt la ville de Madrid en Espagne. Donc.
Okay.
C'est un artiste donc du nom de Jamie Munariz. C'est un artiste avec un drôle de profil. Commencé avec musique punk, psychédélique. Il a même produit le tout premier album hip-hop de sortir de l'Espagne. Donc maintenant, il se consacre plus à l'art audio. Il a même sa propre étiquette, donc il y a environ 20 albums, il y a différentes collaborations. C'est son album Long Wave, Short Wave. Moi, à l'écoute, ça m'a fait penser un peu, par moment, à musique de films d'horreur. Donc, c'est une musique électronique ambiante, quand même assez sombre. Il y a des petites touches quand même d'humour assez intéressantes. Donc, c'est ça, c'est des ambiances souvent inquiétantes. J'invite les auditeurs à écouter l'album avec des écouteurs pour bien saisir les ambiances.
Et à ne pas le faire seul à la maison.
Si
tu dis que ça peut pas ambiance, c'est une
ambiance assez intéressante, je pense. je vous présente quatre pièces pour ce soir. La première s'appelle Sub Bopper Flicker Cladding. Tout de suite après, ça va être Suction. Puis la troisième, je l'aime bien, c'est celle-là qui me rappelle vraiment les films d'horreur des années 50. C'est la pièce Long Wave. Puis la dernière de l'émission, ça va être Short Wave Radio 2. Donc, toute cette série de son album Long Wave, Short Wave, à télécharger absolument.
Puis, on peut trouver les informations sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Je crois que c'est déjà en ligne où ça le sera imminemment. Simon Roy, merci beaucoup.
Merci.
Puis, on t'écoute dimanche soir à Web Musique à compter de 20h.
Oui, un spécial 8-bit cette semaine. Une heure de musique 8-bit, je crois que ça va être assez intéressant.
Alors voilà, l'invitation est lancée pour les fans. On s'en va tout de suite en pause. On écoute Sub Bopper Flicker Cladding sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre un extrait de l'album Long Wave, Short Wave de Jaime Munariz. Je ne sais pas si on dit exactement. Bref, Jaime, oui, c'est J-A-I-M-E, en tout cas, c'est en espagnol. C'était une suggestion de Simon Roy. Et on continue la revue de presse de Raymond Poirier. Tu nous as dit qu'on allait reparler d'une nouvelle tout à l'heure.
Et on en reparle immédiatement. En fait, donc, c'est le secteur des arts visuels au Canada. Il y a une synthèse, une analyse critique. La documentation récente qui a été faite au profit de l'Alliance pour les arts visuels. Quelques constats qui sont assez intéressants. En fait, j'en lance quelques-uns en rafale. Notamment, en fait, ce qu'on dit, c'est que les prochaines études autour du milieu des arts visuels au pays devraient accorder la priorité à l'économie du secteur avec un accent prioritaire sur le marché de l'art. Ce qu'on dit, c'est qu'il est essentiel de comprendre comment les galeries privées, les maisons de vente aux enchères, les collections personnelles d'entreprises, les galeries publiques, les dons, etc., contribuent à l'économie des arts visuels qu'on ne comprend pas encore assez bien. Parallèlement, ce qu'on dit également, c'est qu'on a tendance à oublier peut-être un peu trop le système d'éducation qui, lui, conditionne de plus en plus l'évolution du secteur des arts visuels. L'éducation qui a, d'un côté, un impact économique sur l'ensemble du secteur, donc doit être prise en compte. Et parallèlement, ce qu'on dit, c'est que les milieux de l'enseignement des arts visuels doivent aussi élargir leur programme d'études pour y intégrer des dimensions organisationnelles liées au secteur des arts. On demande également aux provinces canadiennes de s'impliquer davantage en matière de documentation du secteur, d'étudier également le dispositif des musées d'art canadiens pour mieux comprendre le rôle fondamental de ces musées en matière de validation, de collection, d'exposition liée à l'art canadien, évidemment. On souligne aussi qu'il faudrait étudier de manière un peu plus précise, un peu plus suivie, la situation socio-économique de l'ensemble des professionnels du secteur des arts visuels, et ça avec la même rigueur qu'on apporte à l'étude de la situation socio-économique des artistes en général. Et on dit, regardez, il faudra avoir peut-être un constat précisément sur le secteur des arts. Enfin, peut-être l'autre élément que j'ai retenu, c'est qu'il faut aussi explorer un peu plus avant le nouvel environnement numérique qui, lui, transforme profondément les modes de production, de présentation, de promotion de l'art,
oui.
De même que le rapport du public aux arts. Et ce qu'on dit, c'est que présentement, il n'y a pas assez de documentation pour permettre de bien comprendre ça, autant d'un côté pour les organismes que de l'autre pour les gouvernements et que d'un troisième côté, dans une certaine mesure aussi, pour les artistes.
Série de recommandations, j'espère qu'elles sont prises en considération.
Oui, effectivement, et faites ça si les gens veulent mettre la main sur l'étude au complet, eh bien, vous pouvez trouver le lien, évidemment, là, sur le blog de l'émission, aérospatiale.wordpress.com. Quelques autres éléments que vous allez retrouver dans la revue de presse de cette semaine, notamment, je suis tombé en farfouillant sur le web, un blog que j'aime bien, en fait, qui s'appelle « Rat de ville en un mot ». Et cette semaine, il y a Yannick Marcil, l'auteur principal du blog, qui amène une réflexion que j'ai trouvée assez intéressante sur... le côté unique de l'œuvre et le fait que certains artistes qui travaillent avec des employés qui font créer leurs œuvres, eh bien que ça détruit un peu, ou ça peut détruire pour certains consommateurs d'art, le côté romantique un peu la relation privilégié entre l'artiste et son œuvre. Je lui donne un exemple, notamment Jeff Koons ou Damien Hirst, qui ont à peu près 120 employés, donc c'est pratiquement des PME. Il dit que ces gens-là ne font pas exception. Il y en a bien d'autres aussi qui engagent des ressources pour créer des œuvres. Mais est-ce que ça enlève de la valeur à l'œuvre? Est-ce que le fait de savoir que c'est pas nécessairement l'artiste qui l'a créé, que c'est l'artiste qui l'a conçu, il y a quand même une distinction à faire, est-ce que ça change donc le regard qu'on porte sur cette œuvre-là, la valeur que cette œuvre-là possède? Et est-ce que ça peut changer carrément notre regard aussi sur cette œuvre-là, sachant qu'on observe quelque chose que l'artiste n'a pas touché? Donc, est-ce que ça amène des éléments dans l'interprétation? Donc, c'est quelques-unes des questions qui sont soulevées dans cet article-là. Et je trouve la réflexion extrêmement intéressante.
Oui, effectivement, c'est intéressant. J'avais déjà eu, jadis, là, il y avait une discussion avec des étudiants de cégep qui trouvaient inconcevable qu'on fasse appel à des assistants dans un atelier, alors qu'il y en a d'autres qui disaient, ben non, dans le fond, tu sais, si la personne a créé, c'est son idée. Donc, ça reste ce débat-là, finalement.
C'est ça. Est-ce que, dans le fond, la création, c'est l'idée créative et la conceptualisation, le développement, ou est-ce que la création, c'est l'acte de créer, mais de créer l'objet d'art à proprement parler? À la limite, si on synthétise un peu.
Ben oui, on soulève la question. Si vous avez envie d'y répondre, aérospatial.ckrl@gmail.com, on lira vos réponses avec grand plaisir.
Et on saute en Espagne avec un petit scandale. Ça faisait un bout de temps qu'on n'en avait pas eu. Alors, cette fois-ci, c'est une photo exposée d'un acteur nu posant avec une image du Christ en croix du peintre Diego Velázquez sur ses parties intimes qui fait polémique à Madrid. Il y a une association qui juge l'œuvre blasphématoire. 41 600 500 signatures ont été récoltées pour faire retirer l'œuvre. Alors, en fait, ça, c'est dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Camerinos de Sergio Parra. La même image, en fait, d'ailleurs, avait fait scandale l'été dernier après avoir été exposée puis retirée sous la pression de milieux intégristes catholiques à Mérida. Et dans le cas de Madrid, mais jusqu'à maintenant, donc, le directeur des arts dit, regardez, nous, on n'a pas l'intention de la retirer, on veut la garder en place. Mais comme quoi, donc, il y a encore des sujets comme ça qui sont extrêmement risqués, extrêmement glissants pour certaines parties de la population, face à certaines parties de la population. Et en terminant, peut-être une petite mention simplement, tu vas parler du mois multi un peu plus tard aujourd'hui, mais la semaine dernière, on a parlé, ou il y a deux mais semaines, oui, en fait, on a parlé de Klondike.
Oui, la semaine dernière, j'en ai discuté avec Ariane
Pond. Donc, ce décor sonore pour patinoire. Eh bien, on nous a informé via le site du mois multi qu'il y aura des changements à l'horaire de diffusion à la pointe Rolièvre. Donc, ça sera plus possible sur les micros ambiants d'écouter en continu les six pièces d'environ 15 minutes chacune. Donc, ça, on met de côté ce système de diffusion-là. Donc, les pièces seront plutôt diffusées aléatoirement à l'intérieur de la programmation musicale quotidienne de la patinoire. Donc, je pense qu'on peut dire essentiellement que l'œuvre elle-même n'existe plus, mais il y a seulement des fragments qui sont disponibles. Donc, ce que je suggère...
De musique pop et rétro, là,
exactement. Donc,
c'est une triste nouvelle.
C'est un peu plate, si on me permet le québécicisme. L'alternative que j'aurais envie de proposer aux auditeurs, auditrices, sur soundcloud.com/Klondike2012, ou en allant cliquer d'un lien à l'autre là, à partir de notre revue de presse, vous pouvez aller télécharger les 90 minutes complètes. Vous les mettez sur votre lecteur MP3, sur votre iPod, vous mettez des écouteurs et vous allez patiner. Ça va être la manière à travers laquelle vous pourrez vivre l'expérience Klondike dans son intégrité si vous n'avez pas été expérimenté avec la patinoire en cours de semaine dernière.
Bon, ben c'est une triste nouvelle, mais Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Puis on peut t'écouter vendredi de 17h30.
Oui, on va parler un petit peu des prix BD 2011 avec la gang de promo 9e art.
Et on s'en va de notre côté, on s'en va en pause audio, on écoute Suction, on retourne, on discute avec Anouk Deloge et Gino Quentin. D'entendre un extrait de l'album Long Wave, Short Wave, une suggestion de Simon Roy que vous pouvez retrouver sur le site l'aérospatiale.wordpress.com, également avec les communiqués, la revue de presse de Raymond Poirier, les émissions en balado-diffusion si vous voulez réécouter un passage que vous avez trouvé particulièrement excitant ou encore si vous avez manqué un passage, c'est l'occasion de le faire par le biais de notre site Internet. Aussi, si vous voulez être moins impliqué mais savoir ce qui se passe, on est sur Facebook. Donc, vous avez juste à venir chercher de l'aérospatiale, on est les seuls du nom et ça nous fera plaisir d'être amis virtuels avec vous. Et là, on passe dans un autre ordre d'idée. On traverse sur la rive sud, mais métaphoriquement, parce qu'on est quand même dans les studios de CKRL pour discuter avec Annick Desloges. Bonjour.
Bonsoir, Julie.
Et avec Gino Quentin. Bonsoir, Gino.
Bonsoir.
Donc, vous vous exposez les deux à la galerie au Centre Regard en ce moment. Annick, le Rorschach de la résidence. Gino, mon corps est une planète.
C'est bien ça.
Comment vous avez réagi quand vous avez su que vous exposiez ensemble?
Ben, on était contents. En tout cas, j'étais content.
Oh, oui, que la personne voit.
Donc, j'étais content. J'avais vu quelques sculptures d'Anouk. Puis je les avais aimées. Donc, c'était super le fun pour moi d'exposer avec quelqu'un dont j'appréciais le travail.
Même si là, je ne présentais pas de sculptures.
Non,
c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je me suis exclamée. J'ai fait au téléphone. Je pense que j'ai manqué de professionnalisme. J'ai dit, ah oh, oui, Gino, je lance mon travail.
Ah ouais?
Oui, oui, j'étais vraiment très contente.
Mais faut dire quand même que malgré le fait que ce que vous présentez de part et d'autre est vraiment différent chez Regard, il y a quand même des caractéristiques communes dans vos productions. Là. Moi, je pense à la minutie ou encore à l'importance du détail.
Mais il y a quand même des choses qui se retrouvent ou dans les couleurs, justement, ou dans la finesse des détails. Là, je pense qu'il y a des choses qui se ressemblent, même si c'est vraiment très différent.
Oui, puis l'idée de répétition aussi, tu sais, de répéter le geste. C'est comme dans la broderie que tu fais. Mm-hmm. Il y a cette idée-là de répétition. Puis de...
Presque un rituel.
Oui, c'est ça. Puis moi, il y a un peu ça aussi dans les objets recouverts de cuir, avec les aiguilles, la répétition du même mouvement tout le temps pour créer un motif.
Ah, c'est bon, ça. J'avais pas perçu. Moi, je voyais la minutie, je voyais encore le rapport à l'intimité, parce que les deux, vous avez quand même une production qui est assez intime, là, sans aller trop dans les tréfonds de votre être, là.
Ouais.
OK, ben, je vais y aller peut-être plus une question à nous, que le Rorschach de la résidence, c'est le résultat d'une résidence que tu as fait à Marnay.
Oui.
Peux-tu nous parler un peu de cette résidence-là?
Exactement. C'est une résidence que j'ai faite de 3 mois en France l'an passé, que je ne ferai aucune publicité parce que c'était absolument épouvantable.
Ah ouais?
Je dis tout le temps, on rit de ça, on en fait des blagues. Mais puis, dans ce milieu-là, où est-ce que tout était étrange, le mois de novembre, c'était très lugubre, puis toutes les relations interpersonnelles étaient assez... louche parfois, mais je me suis intéressée à la pathologie, puis à tout ce qui était essayer de découvrir un peu quels étaient pas les démons, mais les folies qu'on gardait en nous. Donc, j'ai fait venir les gens dans mon atelier, je les prenais en photo pour décrire un peu ce que c'est, puis je les faisais avec des dessins au début, en thèse de Rorschach, que je retranscrivais en broderie, puis ensuite, je prenais des notes comme un clinicien. Là, je prenais les notes de ce qu'il disait dans la vie, puis tout le temps en se présentant. Donc, je prenais des phrases qui se présentaient en disant « I am » ou « je suis », tout est petit pour les personnes. Puis en les brodant, j'intégrais ces mots-là pour présenter qu'on les étudiait, là, que c'était nos patients, finalement.
Parce que c'est quand même intéressant de voir les paroles, puis l'adéquation des paroles avec les postures des personnages aussi. Tu sais, des fois, il y en a qui sont vraiment très, très évocatrices. D'autres fois, c'est quand même assez différent. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé aussi, le choix de la pose? Parce que j'imagine que tu n'as pas juste pris une photo.
Non, j'en ai pris plusieurs, mais c'est assez graphique, je dirais. Puis ce qui m'intéressait, c'est la connexion entre le double de chaque personnage. Bien, chaque personne, il y a une forme, tu sais, que des fois, on voit le vase, là, qui se regarde, ça fait l'usage. Ben, c'est un peu ce principe-là, à la connexion, quelle forme qui se laissait apparaître, que moi, que je trouvais. Puis je trouvais aussi que ces formes-là représentaient ces personnes-là pour moi. Donc, il y a des gens, j'ai mis des fleurs, et des gens, j'ai mis comme des temples du sud-ouest de l'Asie. Donc, c'est vraiment de trouver. Mais chaque personne, en fait, c'est que le public est invité à trouver eux-mêmes qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qu'ils veulent.
Ouais.
C'est pas juste de donner des réponses, là. C'est vraiment de suggérer des choses.
Et toi, de ton côté, Gino, tu t'es amusé, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, tu t'es amusé à inverser les rapports d'échelle, de dire mon corps est une planète, donc je pense à un phoque, par exemple, sur lequel tu as fait une ville ou tout ça.
Oui, bien, c'est drôle parce que l'idée d'échelle, c'est pas... dans le sens que j'ai pas travaillé là-dessus. C'est vraiment sur l'idée du paysage, mais quand on travaille sur le paysage, on n'a pas le choix, au fond. Un paysage, c'est quoi lorsqu'on le représente? C'est une miniature de la réalité. Puis le phoque, qui lui est plutôt de grandeur normale, est un peu, même à la limite, est un peu plus gros qu'un vrai phoque. Puis donc, de lui greffer sur le dos une ville qui, elle, est vraiment une miniature, au fond, d'une ville. Il y a tout ce lien-là. Il y a aussi le lien entre l'autre phoque rouge.
Oui, c'est ça, le rouge pétard. En fait, c'est la seule couleur vraiment éclatante là, qui attire notre attention.
Sur lequel il y a aussi un dessin de paysage fait un peu comme si c'était le modèle qui avait servi à la conception de la plus grosse pièce. Puis quand on fait un paysage, bien, le fait de le faire plus petit aussi, c'est que là, le rapport au corps n'est plus le même. Puis c'est nous qui domine le paysage, alors qu'habituellement, on est toujours englobé là, dans le paysage, dans ce qui nous entoure, dans notre environnement, au fond. Donc là, il y avait ce rapport-là que j'ai travaillé puis que je trouvais intéressant.
Puis tu parles de paysage, en fait, je venais à tes dessins. En fait, tu as fait une série de dessins, c'est une église, de toute évidence. Puis l'autre bâtiment, est-ce que c'est un bâtiment religieux ou ça ressemblait au sclérama de Jérusalem?
Effectivement. Mais non, c'est deux églises, donc celle qui est difficilement identifiable.
C'est pas la mosquée, la synagogue, ouais.
C'est l'église de Montmagny, une des églises de Montmagny. Okay. Donc sur la rive sud, j'étais en voiture, on était passé devant, puis j'avais trouvé vraiment que c'était une bâtisse, comme une espèce de quintessence des années 60 dans le renouveau.
Renouveau de l'art religieux.
De l'art religieux. Puis celle-là était bien réussie, à mon avis, en tout cas. Je trouvais que c'était bien. Pris des photos, puis je me suis amusé à la faire plusieurs fois. Et puis, après avoir fait cette série-là, une fois que j'ai eu l'impression vraiment d'en faire le tour, je me suis dit, bon, je commence une nouvelle série avec une église qui, elle, est plutôt classique.
Oui, c'est là, constaté avec le clocher.
C'est ça. Donc là, je me demandais où est-ce que laquelle que je fais, tu sais, est-ce que je fais ça de façon arbitraire ou est-ce que je me fixe une règle? Puis je me dis, bon, bien, comme je travaille sur le paysage, je vais essayer de me fixer une règle qui est plutôt géographique. Donc, j'ai traversé le fleuve, puis je suis allé prendre celle de Saint-Tite-des-Capes.
Qui est comme en face, hein, ouais,
ça,
okay.
En face, puis là, j'ai fait le même principe. Donc, en la recopiant tout le temps, en faisant apparaître des parties, disparaître des parties, en des fenêtres, des murs, puis en changeant juste sa position dans l'image.
Dans le dessin ou l'angle aussi.
Oui, mais là, tout d'un coup, on change le paysage. Puis c'est drôle parce qu'au fond, ces images-là, c'est des paysages, mais dans lesquels il n'y a pas très, très peu d'éléments de paysage. Il y a juste un élément architectural, puis on a vraiment, à cause de la couleur, à cause de la position de l'église, on a des ambiances différentes, comme si c'était de nouveaux paysages à chaque fois.
Ben oui, c'est ça, parce que dans le fond, l'église devient un motif sur lequel tu brodes. Je vais aller vers Anouk. En fait, les Rorschachs sont quand même relativement symétriques, hein, mais pas complètement. Il y a quand même des disparités, à part une qui est vraiment, qui est absolument pas symétrique, si je ne me trompe pas, c'est « I am afraid of the rapist ».
Oui, celle-là, c'est pas, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont pas. Mais c'est quand même, le fait qu'il soit symétrique ou pas, je dirais, je l'avoue, c'est un peu un trip graphiste, que ça me plaisait là, de jouer avec ça. Des fois, ils te regardent, des fois, ils ne regardent pas. Puis, en fait, ça pousse une ambiguïté d'un peu tout. Là. J'aime beaucoup le mystère dans ce que je fais, puis dans les œuvres d'art en général. Donc, le fait de changer des choses d'une place à l'autre sur les 9 broderies, ben je trouve que les gens, justement, ils se posent les questions, puis finalement...
Ça sort de la zone de confort de dire, bon, mais si c'est symétrique, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes formes, etc. Ouais. Là, oups, tu sais, ça se surprend, finalement.
C'est un peu du hasard aussi, parfois. Des fois, c'est voulu, mais des fois, c'est vraiment... Ouais. Mais ça pose la question, puis c'est ce qui me plaît, je pense.
C'est ce qui te plaît. Ouais. Puis, tu utilises beaucoup les mots, hein, là, on l'a dit. Ouais. Là, sur chaque boîte lumineuse, il y a les paroles de la personne qui est représentée. Qu'est-ce qui t'attire? Parce que dans ton travail, c'est vraiment récurrent. Là, les mots sont toujours là, des titres qui sont des phrases ou qui vont être directement inscrits.
Mm-hmm. Pourtant, je suis zéro écrivaine. Je me considère vraiment, vraiment pas comme une auteure, mais... les mots suivent mon travail. Souvent, même que souvent les titres ont été, j'ai eu des titres assez frappants parce que c'est les phrases que je me répète sans cesse du début jusqu'à la fin pour rester focussée ou tu sais pour c'est les phrases qui m'inspirent.
Je les répète.
Exactement. Oui, c'est mes mantras, exactement ça.
Puis il y en a en français, il y en a en anglais. Est-ce que c'est parce que c'est les langues que les gens parlaient?
Oui, c'est les langues que les gens parlaient. Puis des fois, je laissais même avec les erreurs ou les particularités. Comme exemple, il y a une Coréenne, c'est pas sa langue natale, elle dit « I'm weak because you're not there ». Puis elle m'a écrit ça, ça faisait quelques jours que j'étais partie de là-bas. Elle n'a pas dit dans son message, en tout cas, je crois pas qu'elle a écrit « Je suis faible parce que t'es pas là ». Mais elle voulait sûrement dire, ben je m'ennuie, t'es partie, c'est plate que tu sois partie. Fait que, tu sais, je laissais un peu ces erreurs-là, la beauté du langage, en fait. Puis je questionnais aussi le verbe être, parce que c'est tout avec des verbes être. Fait que des fois, C'est ça, c'est sur des situations, sur un moment. Des fois, c'est sur une question géographique. Je suis en Corée ou des choses comme ça.
Ou je suis une personne, je ne me rappelle pas, la première, la
fille a dit « I'm such a star in my country. Look at me, I walk like a star. »
Ah oui,
avec cette attitude-là. Oui, je m'amusais un peu à des phrases un peu... qu'on laisse aller des fois qui sont un peu à la volée comme ça, mais finalement... Ben c'est ça, sont pris hors contexte, on peut pas comprendre. Des fois, ça semble complètement absurde. Des fois, dans un...
Ben, ça nous oblige à se questionner, en fait, avec l'image qu'on voit, la broderie, mm-hmm. puis les propos, ben on se fait quand mm-hmm. même une réflexion sur la personne qui est là, ou encore on se positionne aussi là, vis-à-vis les affirmations. Gino, je reviens vers toi. Dans Mon corps est une planète, tu continues à travailler tes sculptures portatives.
Oui.
Qu'est-ce qui t'avait donné l'idée de ça, des sculptures qui nous portent et qu'on peut porter? Je pense que c'est ça qui était écrit sur Internet.
Ça fait longtemps que j'en fais dans les fêtes. Puis la première sculpture portative que j'ai faite, c'est... je vais raconter ma première sculpture portative.
Donc,
la maison où j'habitais, il y avait plein de bois dans le sous-sol, vraiment crade. Puis j'avais ramassé tous ces rebuts-là, je les avais collés ensemble, puis finalement j'avais construit un espèce de rat, parce que je trouvais que ça évoquait bien l'état du sous-sol.
Ouais.
Et puis ce rat-là, en le faisant, je me suis comme, en tout cas, en patentant mes bouts de bois, je me suis comme rendu compte que ça donnait l'impression d'un sac à dos. Donc j'avais accentué cette idée-là, puis j'étais allé à Montréal me promener avec mon sac à dos de rat, donc qui est un gros rat en taille directe, en bois, avec une queue en cuir. Puis je m'étais promené avec ça, donc cette sculpture-là était vraiment portable. Alors que là, dans l'exposition, les sculptures comme laissent l'idée d'être portables, mais elles sont pas vraiment
laissées. Avec des gants, par exemple, là, comme avec un sac, ou je pense qu'il y a un chapeau.
Un chapeau de fée, un chapeau pointu, il y a un soulier avec qui devient un paysage. Ou sinon, il y a des animaux qui, eux, portent des représentations humaines qui portent des paysages ou des éléments architecturaux.
Ça rappelle en même temps le côté quotidien parce que tu utilises beaucoup des objets, on parlait tout à l'heure les épingles font du brillant, mais il y a toutes sortes d'objets quotidiens aussi. Est-ce que il y a cette volonté-là d'en créer un peu l'art, là, j'ai l'impression de dire quelque chose de bien gros, mais l'art dans la vie de tous les jours?
Oui, puis sur l'objet, puis ce qui m'intéresse, c'est la transition qui se passe, c'est à partir de quand que cet objet-là, qui appartient au domaine usuel, là, devient magique. T'sais, à partir de quand la poésie naît, mm-hmm. il faut que je l'associe à combien d'autres objets, à combien d'objets tels quels ou à combien d'objets fabriqués pour que tout d'un coup, il y ait cette étincelle-là puis qu'un simple vase mis à l'envers devienne un building.
Je comprends.
Moi, c'est une tension que j'aime beaucoup là, dans le travail.
Oh mon Dieu, j'aurais aimé discuter encore beaucoup plus, mais c'est faut aller en pause. Anouk Desloges, merci.
Merci beaucoup.
Gino Quentin, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Puis, vos expositions sont présentées à Regards jusqu'au 26, donc ça vient tout juste de commencer. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Jesse Bossé.
Vous êtes gestionnaire, travailleur autonome ou employé et désirez vous perfectionner? Michel Couture Formation et Consultation Incorporée offre des formations dans la région de Québec dans différents domaines. Gestion du capital humain, service à la clientèle, vente et approvisionnement, communication, performance organisationnelle. Informez-vous également sur les formations en entreprise sur mesure et sur le coaching privé ou semi-privé. Pour connaître l'horaire des formations, mcformcoach.com. Contactez votre centre local d'emploi afin de savoir si vous êtes éligible à une subvention. mcformcoach.com.
Dans Futur Simple, découvrez le monde de la science. Le tout vulgarisé et présenté par Valérie Levé et son équipe. Jeudi, 17h30.
Tous les mercredis, Tania Beaumont vous fait découvrir le paysage de l'actualité culturelle de Québec avec l'émission En direct du Sacrilège. Un rendez-vous incontournable entre 17h30 et 19h30 pour tout connaître sur la vie culturelle d'ici. En direct du Sacrilège, une présentation de la bière boréale, de Pastissimo Maître Traiteur et du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean.
Les mardis soirs, écoutez CKRL, 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Joubel, l'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. CKRL.
Du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
Home.
18h, on entend la deuxième et dernière demi-heure de l'aérospatiale. Vous êtes toujours en compagnie de Julie Gagné à l'animation et de Jacques Gignac à la mise en onde. On vient tout juste d'être rejoint par Jessie Bossé. Bonjour, Jessie.
Bonjour, Julie.
Tu présentes en ce moment Chose Avenue, Non Avenue à la Galerie Le 36. Peux-tu nous en parler un peu?
Exactement.
De manière générale.
Parfait. Bien, en fait, moi, là, présentement, c'est cinq tableaux qui sont présentés. Donc, je questionne beaucoup la surface de la matière de l'espace pictural dans ces six tableaux, puis cinq tableaux, donc parce qu'il y en a un grand, j'imagine.
Ah ouais, c'est ça, tu le vois en deux.
Ouais, c'est des plus petits formats que l'exposition qui avait eu lieu à la fin de ma maîtrise en août dernier. Donc, c'est environ 3 pieds et demi par 5 pieds. Pour moi, c'est des petits formats.
Oui, c'est ça. Est-ce que ça a changé pas mal ton rapport à la toile?
Oui, j'ai essayé de conserver la même attitude que j'avais dans les grands formats où le corps, comment je peux dire, que je pouvais...
La gestualité est vraiment très présente.
Oui, c'était l'échelle humaine qui était très présente. Mais maintenant, on est comme englobé, donc la forme de l'arche qui est comme arrivée. Dans ces petits formats-là.
Pourquoi la forme de l'arche? Parce qu'elle est là dans tous les tableaux. Qu'est-ce qui t'inspire dans cette forme-là?
En fait, c'est les ouvertures que ça crée. Habituellement, on voit beaucoup des ponts, des fenêtres, des portes. Peut-être que ça joue aussi avec mon processus, avec les ouvertures que ça crée, puis le rapport avec la structure qui est devant. Donc, on a comme une dualité qui apparaît à ce moment-là dans les tableaux.
Okay.
Donc, puis l'arche, c'est surtout pour le regard qui est projeté loin, parce que dans les grands tableaux, habituellement, déjà là que ça ouvre, c'était des grands paysages. Étant donné que c'est plus petit, j'imagine que j'ai voulu comme essayer d'agrandir, en fait, notre vision, de l'élargir, d'aller plus loin.
Puis, tu disais les grands tableaux sont des paysages. Est-ce que les tableaux de choses avenues, non avenues, tu les considères comme des paysages également? On sent qu'on est comme à mi-chemin là, entre la figuration puis l'abstraction.
Exactement. C'est un peu une suite, en fait, de mon projet que j'avais exposé à la Galerie des arts visuels. Paysage, dans le sens que peut-être les couleurs qui reviennent beaucoup, le bleu, le vert,
les couleurs
dominantes qui fonctionnent très bien, puis qu'en même temps, je veux aussi que le public, en fait, le regardeur, s'identifie devant un paysage parce qu'à ce moment-là, il peut se questionner sur d'autres qualités de la surface, de la matière, puis plutôt axé sur des détails, de la matérialité même, de la peinture, donc des détails.
Parce que ça, c'est quand même important. Là, pour toi, je pense que tu fais des lavis, tu fais aussi des...
Mais en fait, mon procédé, c'est...
Tu brosses un peu, là.
Moi, je brosse la surface avec la peinture, puis souvent aussi du pigment. Puis pour aller chercher différentes textures de la toile. Donc, il y a le brossage, puis ensuite, tu travailles avec des lavis, un peu aquarelles, donc des transparences de la même couleur. Donc, chromatiquement, c'est beaucoup en nuances, là, avec la toile brute qui joue dans mon procédé de masquage-démasquage. Donc, au début, quand je commence la toile, le premier geste, ça se trouve être un geste de papier à masquer. Donc, je crée la structure du tableau, je l'organise. Puis ensuite, bon, j'ai la peinture. J'interviens dans l'espace avec la peinture. Et ensuite, à la fin, comme dernier geste, c'est de retirer le papier à masquer. Donc là, il y a un dévoilement. Puis j'essaie que le dernier retrait soit le dernier geste de la toile. En fait, pour ce projet-là, plus spécifiquement, là.
Et comment tu sens quand tu l'enlèves? Parce que là, je veux dire, quand tu travailles, ils sont là tes, je veux dire les mots en anglais.
Mais ils s'imbibent, ils se chargent vraiment de matière. Fait que ce que ça fait, c'est que ça allège aussi le tableau quand je l'enlève. Souvent, j'ai des surprises. Ça peut être soit la catastrophe, soit l'émerveillement. Donc, chose avenue, non avenue, ça vient aussi de là, dans la manière de procéder avec le papier à masquer.
Ah, chose avenue, donc ce qui est arrivé, non avenue, ce que tu pensais qui arriverait.
Oui, exactement, parce que j'essaie de voir un peu des deux côtés, donc à l'avers du papier à masquer, puis qu'est-ce que ça pourrait donner, mais souvent, on a souvent des surprises, puis des fois, il y a des lavis, vu que je travaille beaucoup en liquide, qui est allé derrière le papier à masquer. Puis, on est toujours en train de changer d'orientation. La composition de la toile bouge beaucoup. C'est ce que j'aime, en fait, c'est que les événements sont là, puis ça me permet de travailler de manière abstraite avec les éléments qui évoluent dans le tableau.
Ben ouais, puis en même temps, ben, tu acceptes la grande part de hasard que ça peut comporter malgré tout. Là, je pense que je dis grande part de hasard, je ne dis pas que tout est laissé au hasard, mais quand même, il y a...
Puis souvent, j'enlève le... En fait, ce que j'aime, c'est l'antériorité de la toile qui est créée. Donc, tu joues un peu avec
avant,
ça.
Il y a avant,
il y a après. Donc, la matière brute, c'est assez difficile à expliquer quand même. Je me demandais comment j'allais expliquer ça ce soir. Mais donc, ce que, le premier geste, en fait, va donner le dernier, puis... l'absence de matière va devenir la structure qui va être la plus présente du tableau.
Ben ouais.
Donc, puis, c'est ça. Il y a des gens qui vont se laisser aller à cette structure-là, à la voir. Il y en a d'autres qui vont aller derrière, donc voir le paysage qui est derrière la confrontation entre les deux. Puis, moi, je dirais que les deux sont en écho, sont en harmonie, mais il y a des gens qui vont être plus attirés par la structure, d'autres plus par les couleurs, par le paysage. Et, c'est vraiment... Oui.
Puis, mais ça fait un contraste quand même intéressant parce que, bon, tu le disais, il y a quand même une gestualité, tu travailles avec des lavis, tu fais du brossage, puis là, il y a certains quand même, la plupart des contours des rubans de marquage sont quand même assez nets.
Oui, j'ai conservé.
C'est quelque chose que tu.
Mais j'ai conservé les tableaux qui étaient les plus légers. J'en ai fait comme peut-être 4-5, même des plus grands qui. Des fois qui fonctionnent pas exactement comme on veut. Donc, j'ai vraiment conservé les premiers jets. Comme quand le tableau s'est arrêté, ça fonctionnait. C'était quand j'ai enlevé, j'ai été agréablement surprise et non pas l'inverse.
Ouais.
Donc, ouais, je pourrais dire.
Puis le ratio de réussite, parce que tu dis, il y en a que tu étais moins satisfaite. J'espère pour toi que c'est pas moitié-moitié. Hein?
Non, du tout. Mais pour ce projet-là, je voulais tenter l'expérience, étant donné que c'est des plus petits formats. Puis, en fait, ça donne une grande liberté parce qu'on a, on a comme une distance qui se crée avec le geste pictural, parce que la toile. Travailler en peinture, c'est très face à face, c'est très corps à corps. Puis des fois, ça peut être difficile à prendre. Mais là, avec le papier à masquer, il se crée comme une distance. Donc, ça me permet d'agir librement, rapidement.
D'avoir un laisser-aller.
Un laisser-aller, un rythme qui se crée. Puis après ça, si jamais je peux enlever, commencer par enlever un papier à masquer, puis après ça, tranquillement, continuer, mais jusqu'au dernier. Comme le tableau s'arrête, les lavis s'écoulent. Puis à un moment donné, c'est ça, le tableau est là. Fonctionne ou pas.
Puis, pour l'exposition, tu as décidé de ne pas mettre de titre.
À mes œuvres, oui.
Il y a juste le titre de l'exposition, mais pas pour les œuvres.
Oui, c'est ça, c'est vrai. J'avais, à la dernière exposition, j'avais des titres qui étaient plusieurs titres, en fait, avec séparés de virgules, comme le pont, le temple, la silhouette, il y avait même des nombres, tout espacé avec des virgules et des lettres majuscules. Donc, on pouvait choisir un peu le titre et ça ouvrait encore plus peut-être le tableau. Mais pour ce projet, je voulais juste que ce soit un passage, comme une déambulation devant ces arches-là qui ont toutes leurs personnalités respectives. Donc, se laisser aller à peut-être trouver notre tableau, celui qui pousse le regard plus loin. Donc, c'est vraiment toute leur personnalité, là. Les petits détails, pour moi, sont font une grande différence dans l'interprétation, dans la sensibilité.
Sur les cinq, il y en a un qui est beaucoup plus grand, qui a quand même une facture différente, où l'arche est là, mais on a l'impression que tu l'as mis en perspective. C'est pour intégrer plus, de manière plus évidente l'idée du paysage, de l'architecture?
Je pense que c'est plutôt, lui, en continuité avec le paysage. Puis je voulais aussi que le paysage soit dominant. Donc, je voulais pas qu'on se questionne à savoir si le paysage m'intéresse ou pas, ou si c'est de l'abstraction.
Ouais.
Moi, c'est dans le sens des étendues, pour moi, c'est important. Donc, il est arrivé comme ça, ce tableau-là. Je peux pas vraiment l'expliquer. Des fois, il arrive des tableaux dans mes projets, puis c'est comme ça que ça commence. Donc, il arrive un tableau, puis là, je suis comme inspirée, puis je suis presque obsédée par une forme. Là, dans ce projet-là, ça a été le cas. Donc, je l'ai poussé jusqu'à temps qu'il essaie de retrouver cette fraîcheur-là que j'avais eue au premier tableau que j'avais effectué, où il y avait d'ailleurs des couleurs qui étaient presque phosphorescentes, là, des couleurs qui étaient avec des pigments, avec beaucoup de blanc, qui allument vraiment la couleur de la toile brune.
Comme une espèce de turquoise très, très pâle.
Oui,
il y en a un comme ça qui est vibrant. Là.
Oui, ça fait vibrer un peu. Ça donne une espèce de sonorité à la toile. Puis, je dirais aussi que la toile brute, quand elle côtoie des couleurs comme ça, ça devient un peu sculptural. Donc, des éléments qui amènent un autre niveau de lecture. Puis, que j'aimerais poursuivre d'ailleurs en sculpture En tout cas, depuis la dernière année, avec les projets de peinture que j'ai fait, on dirait que ça s'amène vers là tranquillement. Là.
Ben, Jessie Bossé, merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir, Julie.
Donc, l'exposition, elle est présentée au 36, la galerie 36, rue Couillard, hein, si vous y allez, là, vous allez voir, c'est juste une petite pancarte dans la porte, dans un immeuble du Vieux-Québec. Les heures d'ouverture, je l'ai dit, parce que c'est quand même assez limité, oui, donc vendredi, samedi, dimanche, de 14h à 17h. L'exposition, elle est présentée jusqu'au 19 février. Donc, merci, Jessie.
Ça me fait plaisir, merci.
On s'en va en pause audio, on écoute Long Wave, et au retour, on discute avec Viviane Paradis. De la pièce Long Wave tirée de l'album Long Wave Short Wave de Jaime Munariz. C'est une suggestion de Simon Roy qui nous suggérait d'ailleurs de l'écouter avec des écouteurs, donc être seul à la maison et d'écouter ça, puis de se mettre dans l'ambiance. Vous pouvez trouver les liens pour télécharger l'album sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Aujourd'hui, je l'ai dit en début d'émission, vous le savez fort probablement, on est le 31 janvier, c'est-à-dire la veille du début du mois multi. Et pour en parler, la directrice artistique Viviane Paradis, bonjour.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Oui, ça va.
Oui, pas trop dans le jus, là, la veille du mois comme ça.
Un peu fébrile, mais c'est juste, on est en, les artistes arrivent, là, on est en montage depuis quelques jours et tout, là, c'est une sacrée belle ambiance.
C'est la course.
On a très hâte à demain, là. Non, ça va bien, mais c'est ça, là, c'est toute l'équipe, que ce soit les techniciens, les artistes, tout le monde, on est tous, bon. Gonflé à bloc, là, on a vraiment...
Ouais, ouais. Comme le stress de la première.
Ouais, ouais.
D'ailleurs, demain, c'est le coup d'envoi du mois multi à compter 17h dans le hall de Méduse.
Oui. C'est le lancement, oui.
Viviane, c'est ta première expérience comme directrice artistique du mois multi. Tu y avais déjà travaillé comme...
Oui, il y a plusieurs années. Oui, c'est un événement que je suis pratiquement depuis ses débuts. Alors,
Puis là, tu as remplacé Émile Morin au mois d'août.
Oui.
Ça a dû être assez rapide, hein?
Oui, c'est rapide, c'est ça. Mais je pense qu'on quand même on a réussi à bien s'en sortir, là, à concocter quelque chose qui est quand même dans la lignée des précédents mois multi. Moi, c'est un événement que j'ai toujours trouvé extraordinaire parce qu'il arrive aussi des pratiques qui se rejoignent, qui se complètent en art électronique et multidisciplinaire, parce que souvent on entend plus parler des festivals d'art électronique, mais nous, ce qui est intéressant avec le mot multi, à la fois les arts à scène, les arts vivants, les arts électroniques, les pratiques un peu dans les interstices, la danse, du théâtre, l'installation. Alors ça, c'est assez unique comme événement.
C'est ça, hein, parce qu'il y a des festivals d'art électronique au monde, il y en a sûrement d'art multidisciplinaire, mais là, les deux ensemble, ça fait vraiment une particularité.
Et même multi, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de festival.
Ah, ouais?
C'est plus dans les festivals de théâtre ou de danse ou d'art visuel qu'on retrouve certaines de ces pratiques-là, parce que c'est vraiment à la frontière, souvent, ce qu'on va présenter. Là.
Donc, on a la chance quand même d'avoir ça ici à Québec. Et là, tu as fait ta programmation pour le mois multi. Cette année, il n'y a pas de thématique à proprement parler. Je crois que tu t'es intéressé à une réflexion sur l'image.
Oui, je suis partie un peu je ne voulais pas me limiter à un aspect thématique aussi, étant donné le
temps imparti
pour faire une programmation conséquente. Mais j'avais quand même toute une réflexion autour de l'image, comment ça peut être utilisé par les artistes, comment ça peut être détourné, comment ça peut être travaillé dans ces différents champs disciplinaires, interdisciplinaires. Là, pour tranquillement bâtir quelque chose où il y a beaucoup d'œuvres finalement dans les arts vivants, que le spectateur devient au centre de l'expérience de l'œuvre d'art. Alors, c'est beaucoup, c'est pas des rapports, on a peu de rapports frontaux avec les œuvres, plus bon, c'est ça, les performances, les théâtres, mais aussi même pour les installations, là, on change un peu la perspective. Alors, c'est vraiment un champ ouvert, mais qui me semble quand même un bon portrait des pratiques qui se font par les temps qui courent là, dans l'art multi et en art électronique.
Habituellement, le mois multi, c'est quand même des expériences hein, qu'on propose aux spectateurs, mais là, dans ce cas-là, c'est encore plus impliquant. Je pense notamment aux deux performances de Kenji Wallet.
Oui, alors c'est sûr que là, on est pièce touchée numéro 2 avec Clan Corpore, qui va être présentée en fin de semaine à Méduse. Là, on parle Clan Corpore, c'est un mot allemand qui veut dire le corps sonore. Alors, c'est vraiment cette expérience-là, c'est une expérience du son, mais qui passe par le toucher sur le corps.
Ouais, parce que là, on n'est plus spectateur, en fait, on devient instrument
de musique. Sans son, puis tranquillement dans la performance, il y a des aspects sonores qui s'induisent. Mais ce qui est fascinant, c'est que pour avoir fait la première version de la pièce touchée numéro 1, finalement, à Berlin, il y a quelques années, c'est qu'on sent vraiment la musique qui se développe à partir juste de légers touchés, soufflements, de frottements. Et qui sont très respectueux, là, je veux dire, du spectateur qui subit finalement la performance, mais c'est avec le cœur qui bat aussi, parce qu'on se rend encore plus compte des corps, des
sons produits
par l'intérieur du corps. Alors, c'est assez fascinant. Dans une perspective plus large aussi, on n'est pas dans une société où on se touche beaucoup, les Occidentaux. Alors là, ça renverse un peu le rapport. Là, c'est une performance artistique qui nous touche, qui rentre dans notre bulle, dans notre intimité pour... Je pense que ça peut être une expérience assez fascinante à vivre.
Peut-être une précision, je pense que le spectateur est seul avec les performeurs.
Oui,
il n'y aura donc pas de public devant.
Une à deux personnes à la fois.
Ouais.
Ça peut être jusqu'à quatre personnes, en fait, pour pièce touchée numéro 2, mais chacun est couché, on reste habillé, on a les yeux bandés pour vivre ça dans l'ordre, pour vraiment se concentrer sur les expériences corporelles. Et puis, voilà.
Puis, tu parlais de participation du public aussi. Je pense que pour le Sacre du printemps aussi de Roger Bernard, événement, ça va être quand même assez important là, qu'il y ait du public qui participe.
Ah oui, tout à fait. Mais le Sacre du Printemps, Roger Bernard, c'est un chorégraphe catalan. Il a décidé de... il reprend la chorégraphie historique de Pina Bausch du Sacre du Printemps, sur la musique de Stravinsky. Sauf que là, on a une performance, on a une chorégraphie, mais sans performeur. Le spectateur devient le performeur. Alors, les spectateurs qui vont participer au spectacle, pas assister, mais vraiment participer, il n'y a pas d'assistance qui regarde. Chacun va avoir sa paire d'écouteurs avec des instructions et la musique pour faire les mouvements de la chorégraphie. Et on refait, j'ai vu récemment le film de Wenders sur les chorégraphies de Pina Bausch, en revoyant les images de cette chorégraphie historique, en ayant fait la performance de Roger Bernard, c'est vraiment ça qu'on refait avec nos maladresses, avec nous ne sommes pas des danseurs professionnels, nous, spectateurs, mais c'est vraiment une expérience différente à vivre du rapport au mouvement,
oui.
Une expérience collective aussi, parce qu'on est chacun isolé avec nos écouteurs, mais on est plusieurs à recevoir les mêmes instructions, mais pas tous. Alors, des fois, on veut suivre ce que notre voisin va faire par un mouvement naturel d'effet, que je dirais un peu mouton, mais finalement, on n'a pas les mêmes instructions. Alors, ça donne des éléments intéressants avec certaines instructions parfois un peu ambivalentes. Alors, il y a certaines hésitations, certains mouvements de groupe ou non qui se font. Alors, c'est vraiment...
Ça pique vraiment la curiosité.
Oui, tout à fait.
Les installations, habituellement, la plupart des installations vont être là à partir de mi-février. Il va y avoir un vernissage, d'ailleurs, pour ces installations-là. Mais quand même, il y en a deux qui commencent demain, dont Mirror Peace,
Manix, de l'artiste hollandais Manix de Nice. Puis il y a aussi l'installation de projection cinéma perpendiculaire de l'artiste français Julien Maire, qui elle, est présentée à la galerie de la bande vidéo. De vernissage demain en même temps que le lancement, puis c'est présent jusqu'à la fin du mois multi.
Puis cette année, les cabarets audio, tu as confié la programmation à Ariane Plante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'approcher spécifiquement?
Oh, Marianne, parce que c'est tout son intérêt pour l'instant. C'est elle-même une artiste audio aussi, connaît bien mieux, qui a travaillé avec la gang d'Antenne, tout ça. Alors, je trouvais que c'est une belle collaboration, qui connaît bien le mois multi pour y avoir travaillé aussi. Puis, elle avait toutes sortes d'idées autour de la parole, la voix qu'elle voulait travailler avec pour faire sa programmation. Alors, je trouvais ça intéressant qu'elle puisse solliciter plusieurs artistes de Québec. Il y a quand même quelques artistes de l'extérieur de Québec, mais de Québec dans le cadre de ses cabarets audio, qui va être un peu différent des autres années parce que ces dernières années, ça avait été un peu en lieu itinérant pour les cabarets audio, des fois Méduse, des fois au Cercle. Cette année, on fait ça, on s'est fait un espace lounge dans la salle multi. Les cabarets vont être là. On va, après, à la fin du spectacle, on s'installe là, on écoute le cabaret, on prend un verre, on continue la fête après. Alors, vraiment, un lieu festif en compagnie des cabarets audio là, tous les soirs, qui aura les sept cabarets audio.
Vous avez vraiment tout rapatrié, d'ailleurs, à Méduse. Là, j'ai regardé la programmation et il n'y a absolument rien qui est à l'extérieur.
Ben, à l'extérieur, littéralement, oui.
À l'extérieur, oui.
Mais il n'y a pas d'autres. Non, effectivement, on n'a pas d'activité dans d'autres lieux comme à l'extérieur de Méduse. Non, retournons dans nos pénates, explorons au maximum nos pénates, c'est-à-dire Méduse, nos superbes salles, la studio de la salle multi, mais aussi les collaborateurs à Méduse comme la bande vidéo, là, Graham qui va collaborer pour le numérique avec cette superbe galerie vitrée là, de l'illuminer. Là, on va investir à l'extérieur avec les nuits numériques.
Ben oui, ça nous en parler un peu, là, parce que là, vous prenez quand même le pari de nous faire sortir le soir en février. Là. C'est déjà dur de sortir les gens de leur salon en février.
Ouais, on va faire, en espérant qu'il ne fasse pas moins 40 ce soir-là, mais bon, je pense que c'est les deux soirs de 19h à 23h.
C'est à quelle date, donc?
Les 17 et 18 février, dans la troisième fin de semaine la troisième fin de semaine du mois de février, c'est bien ça. Alors, c'est un parcours d'œuvres installatives et vidéographiques autour de la vidéo puis de la lumière. On va y avoir une performance aussi extérieure avec l'installation et performance Light Attraction de Manuel Chante sur la terrasse attenante à Méduse. Une œuvre de Wiesel dans les anciennes vitrines de Sequoia sur la côte d'Abraham. L'installation La forêt bleue de Bradton.
Toutes les vitrines dans le grand.
Celle du côté de la côte d'Abraham.
C'est ça.
Puis ensuite, Antitube a fait une programmation de films expérimentaux muets qui vont être présentés sur six écrans dans les vitrines du côté de la rue Saint-Vallier. Puis après ça, on va finir, on peut quand même venir se réchauffer à l'intérieur tout au long de la soirée, mais il va y avoir aussi deux performances intérieures, encore là, autour du son et de la lumière, en fait, d'éléments lumineux qui vont produire du son. Edwin van der Heijden, qui présente sa performance Evolving Spark Network, qui est faite à partir d'étincelles. Qui
oui, le son de la lumière d'étincelles.
C'est ça. Puis pour finir avec un cabaret audio spécial d'Olivier Zoll, qui va présenter son cabaret Larson, encore là, à partir d'éléments lumineux qui produisent du bruit.
Puis qu'est-ce qui avait amené à cette idée des nuits numériques?
Ben, je pense que c'est l'intérêt d'investir vers l'extérieur aussi, de développer, de faire un événement festif gratuit aussi, parce que toutes les performances installations, c'est deux soirées d'activités gratuites, de pouvoir éventuellement, est-ce qu'on va faire ça toute la nuit? Est-ce qu'on va déployer plus vers l'extérieur? Alors, c'est de faire un nouveau rendez-vous dans le cadre du mois multi pour un peu faire briller la nuit, quoi.
Peut-être en terminant la question piège, toujours difficile de répondre. Est-ce qu'il y a un événement, une installation que tu as particulièrement hâte de voir?
Ben, il y en a plusieurs. J'ai bien hâte de voir Attaché demain soir, la création de l'INNO, qui est d'ailleurs en général ce soir, puis qui est... C'est bien, j'ai vu un enchaînement à Montréal, être en résidence aux Écuries à Montréal. C'est vraiment un travail abouti. J'ai hâte de le voir en état final. Il y a Chris Verdon aussi la semaine prochaine avec son trio d'installations performance In Mass et Prince Syncope. Je pense que ça va être assez un moment marquant. Puis les installations aussi avec Magali Babin, Pierre-Man Colgan, Fleshwood Metal, qui va d'ailleurs avoir une performance le 15 février lors du vernissage avec leurs trois. Ils ont décomposé une batterie en trois éléments circulaires. Alors ça, je pense que ça va être un beau moment aussi du bon multi.
Ben voilà, on a parlé quand même de plusieurs choses. On n'a pas fait le tour, mais de toute façon, toutes les informations sont disponibles sur moimulti.org. Hein, tout aussi simplement que ça. Viviane Paradis, merci beaucoup.
Merci.
Et nous, on termine là l'émission, en fait, juste vous inviter à quelques petites choses. Je le disais tout à l'heure, mercredi, coup d'envoi du mois multi dans le hall de Méduse, qui est précédé, je crois, du vernissage de Julien Maire à la bande vidéo. En tout cas, tout est en même temps à Méduse à 17h. C'est bien ça? Et ensuite, mercredi à 19h30, c'est dans un autre ordre d'idée, c'est une conférence au Musée national des Beaux-Arts du Québec, un regard neuf autour de l'exposition Mode et apparence dans l'art québécois 1880-1945, qui est donnée par Esther Trepanier, qui est co-commissaire de l'exposition, qui est aussi l'ancienne directrice du Musée national des Beaux-Arts. Puis jeudi, si vous suivez un peu toute l'histoire de la revengeance des Duchesses, vous pourrez... Et si vous ne le suivez pas non plus, vous allez au vernissage de l'exposition Crazy Carpet qui est présentée à l'établi. Sur ce, je vous laisse entre très bonnes mains avec Gilles Chaumet et Folk d'Amérique. Je remercie Jacques Gignac et je vous souhaite une très belle semaine.